Bon après-midi tout le monde, vous êtes présentement à l'antenne du 109 FM CHAI. Merci beaucoup d'être avec nous. On passe maintenant à la chronique cinéma de Mathieu Bellec-Prévost. Comment ça va Mathieu?
Je vais très bien, et toi?
Bien merci. Et donc depuis le début de la pandémie, on voit les films qui étaient destinés pour les salles de cinéma être, on peut dire, transférés de plateforme, être uniquement transposés en ligne. On l'a vu notamment avec HBO Max aux États-Unis, mais cette année donc, on change de sujet de film parce que tu nous parles d'un film pour enfants qui a été transposé seul pour Amazon Prime et c'est le quatrième film de la série des Hôtels Transylvanie.
Oui, exactement, c'est Hôtels Transylvanie, Transformanie, qui est le quatrième opus, comme tu dis. Il était censé sortir l'année dernière au cinéma, mais COVID oblige. Ils ont reporté la date plusieurs reprises et finalement, ça a été décidé, comme beaucoup de films depuis les deux dernières années, d'être mis en ligne pour sauver des coûts. Et donc, c'est Amazon qui se retrouve à avoir l'exclusivité de ce film-là. Et il est sorti tout récemment, ça fait une semaine ou deux qu'il est disponible en ligne. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que je pense ça de gros films de cinéma et je m'attends pas souvent à ces films d'animation. Je me suis dit que là, c'était l'occasion de le faire. Je sais pas si t'es fan de la franchise de ces films-là.
J'ai jamais vraiment regardé, mais non, j'ai jamais vraiment regardé.
Ben, il faut admettre, c'est pas la plus grande franchise de films d'animation.
Ouais, c'est ça.
C'est divertissant, mais c'est loin de la qualité de Pixar, des films de Pixar ou de films de Disney en règle générale.
Ou de Garfield,
oui, exactement. Et donc, mais ça reste que je trouvais ça divertissant.
Ben oui.
J'ai découvert les films il y a un peu plus d'un an. J'ai écouté les trois en deux semaines. Je cherchais une nouvelle saga d'animation à découvrir. Et je suis quand même fan d'Adam Sandler. C'est l'acteur principal de ces films-là, celui de Dracula. Et
oui.
Donc, j'ai passé un bon moment. C'est pas extraordinaire comme film, mais...
Justement, comment tu le compares à travers les autres films de la série?
Ben, ce nouveau film-là qui vient de sortir, je dirais que c'est le moins bon de la saga. Généralement, une trilogie se soutient à lui-même. Et souvent, quand on arrive à un quatrième opus ou un cinquième opus, souvent, c'est là que ça se corse en termes de qualité. Et c'est le cas ici. Je dirais que le quatrième, même si les trois premiers sont pas extraordinaires en soi, en termes de scénario et tout, celui-ci ne fait que reprendre beaucoup de thématiques déjà abordées dans les précédents films. Il ne fait que les répéter. Grosso modo, on suit toujours Dracula, sa fille et son beau-fils dans son hôtel en Transylvanie. Et dans le fond, dans ce film-là, Dracula décide de prendre sa retraite et de laisser l'hôtel à sa fille. Mais suite à un quiproquo avec son beau-fils, Johnny, les humains vont... Johnny va donner un monstre et tous les monstres vont donner des humains. Et donc, ils vont devoir trouver une solution pour corriger ce problème-là. Ils vont partir en Amérique du Sud en quête de réponse. Et donc, à part la prémisse de base qui est d'inverser l'état des personnages, on joue avec les mêmes thématiques qui ont été abordées dans les précédents films, qui est la famille, l'acceptation, que l'apparence, c'est pas ce qui compte, etc. Et ça reste que c'est toujours divertissant comme film. Mais quand on a vu les autres avant, on ressent comme une répétition qui fait qu'on est un peu plus lassé par cet opus-là.
Genre, la structure est assez classique en soi, là, c'est ça que tu dis?
Oui, c'est ça, c'est assez classique. Ça ressemble, même s'il y a beaucoup de nouvelles idées intéressantes, ça ressemble beaucoup au précédent film. Ça ne sait pas se renouveler réellement comme film. Et le troisième film offrait une bonne conclusion assez satisfaisante que celle-ci. Oui, une conclusion, mais elle n'est pas nécessairement aussi satisfaisante que la précédente.
Ouais.
Ça reste que c'est des beaux films, là. Je veux dire, une bonne animation, une famille ou des enfants vont apprécier de le voir, juste pour les visuels, il y a des beaux visuels dans ce film-là, des belles couleurs. Moi, c'est quelque chose que j'aime ça rechercher dans les films d'animation, c'est d'un pour qu'il soit beau, c'est le cas ici quand même assez beau, c'est pas, encore une fois, c'est pas aussi beau nécessairement que du Pixar, mais ça se défend assez bien. Une particularité, par contre, de cet opus-là, si on a envie de l'écouter en version originale, Adam Sandler n'est pas de retour pour cet opus-là, ce qui est assez particulier. C'est un humoriste américain, Brian Hull, qui est reconnu pour être un grand imitateur, qui reprend le rôle. Et globalement, c'est une bonne job, sauf que c'est pas Adam Sandler, donc pour ceux qui suivent en étant fan de l'acteur, ben il est pas présent dans cet opus-là. C'est un bien pour un mal, là, si je peux dire. Là.
Fait qu'on n'est pas dans un film on n'est pas dans un film où les adultes peuvent avoir autant de plaisir que les enfants.
Oui, je dirais ça exactement. Il y a certains films d'animation qui sont pour tout public ou qu'il y a deux niveaux de lecture.
As-tu des exemples?
un exemple?
Oui.
Les films, mettons, d'histoire de jouets, entre autres, je trouve qu'ils ont, ils ont plusieurs niveaux de lecture, dépendant de l'âge ou de la vision qu'on a de ce qu'on perçoit des thématiques. Ils peuvent être vus de différentes manières. Je trouve que c'est des bons exemples de ces films-là. Il y a Chanté 2 qui est sorti récemment, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas fait des chroniques, mais qui est sorti récemment, et qui est lui aussi à plusieurs niveaux de lecture. C'est un film qui est familial, mais autant les adultes que les enfants peuvent voir chacun des messages différents. Dans le cas présent, c'est surtout pour les enfants que ce film-là s'adresse. Même si les thématiques sont intéressantes et ils peuvent toucher un public plus mature, est-ce qu'ils faisaient mieux dans les précédents films? Ici, on va plus être lassé de revoir les mêmes choses sans avoir vraiment de réel développement. Fait qu'un adulte va moins apprécier. Ce film va moins être atteint par les messages véhiculés dans cet opus-là que dans les précédents. Là.
Ce qui est drôle, c'est que dans des films comme Histoire de jouets, vu que c'est sorti dans les années 2000, il y a une génération d'enfants qui a découvert ces films-là, puis à cette heure, cette même génération-là le fait découvrir à leurs propres enfants. Fait que c'est ça qui rend le tout encore plus attachant.
Oui, il y a un côté nostalgique, un côté attachement profond qui a évolué à travers les années pour ces franchises-là. Je dis pas que ce sera pas nécessairement le cas avec l'Hôtel Transylvanie. Je sais que le premier est quand même assez bon, là. Donc il y a sûrement du monde pour vouloir le revoir et le partager avec leur famille. Reste, il y a pas la même aura qu'il aurait pu avoir si on compare encore une fois avec Histoire de jeu qui est dans les meilleurs franchises d'animation de tout le temps. C'est sûr que c'est dur de comparer quelque chose à Histoire de jeu quand c'est un des meilleurs sur jamais fait. Mais reste qu'il y a plusieurs franchises comme ça à certains niveaux différents. Ils ont pas tous ils brisent pas tous. C'est que ici avec Hôtel Transylvanie, c'est bien, c'est divertissant. Mais est-ce que ça va aller de génération en génération? J'en suis pas certain. En tout cas, pour le premier peut-être, mais pour la seconde en tant que tel, j'en suis pas convaincu. Moi, j'ai un peu apprécié les voir, mais c'est ça va pas plus loin.
C'est un peu comme la série Jazz. Le quatrième est tellement mauvais qu'il est bon.
Oui, si on va du côté horrifique, oui, effectivement, à travers les Jazz, surtout le dernier qui est horrible en soi, que j'ai jamais tout compris, honnêtement, tellement que je le trouvais absurde et mauvais.
Jazz The Revenge. Déjà là, il y a de quoi, là. Avec Michael Caine. Michael Caine, pour l'anecdote, il avait gagné un Oscar pour un rôle qu'il avait fait et il pouvait pas se présenter parce qu'il tournait Jazz 4. C'était tellement drôle. Oui, mais tu sais, tout le monde a besoin d'argent à un moment donné, là. On a tous besoin.
Ben oui. Mais oui, c'est comme je disais, c'est tirer la sauce pour rien, là. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il y a beaucoup de franchises qui ne le savent pas. Jazz est reconnu, entre autres, pour ça, parce qu'après deux films, c'était plus ou moins conclu. Et là, ils ont voulu progresser. Ils ont allé jusqu'à quatre films, qui étaient, à mon sens, absurdes.
Ben, quand t'es un film qui attend pas pour le retour des salles, puis que tu vas sur une plateforme de streaming, c'est un signe. C'est un signe universel de ça va pas être aussi cool qu'on le pense.
Oui, je suis totalement d'accord, effectivement.
Mathieu, tu donnerais combien sur 10 pour ce film-là?
Je dirais qu'il tourne autour de, je dirais, 5.5 sur 10 à peu près. Là.
Okay.
Il est passable, mais c'est pas extraordinaire. Là.
Ben, passable. 55%, c'est pas une note de passage. Mathieu Bellec-Prévost, notre chroniqueur cinéma qui vient nous parler de Hôtel Transylvanie 4 qu'on peut retrouver sur Amazon Prime?
Oui, effectivement.
Merci beaucoup, Mathieu.
Toujours un réel plaisir.